RFI minuit 30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Afrique Soir avec Zéphirin Quadio, bonsoir.
Bonsoir Christophe Paget, bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette demi-heure d'actualité africaine, les mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner annoncent leur retrait du Mali après plus de 3 ans de présence. Ils devraient être remplacés par les forces d'Africa Corps, un contingent directement sous la coupe du Kremlin. Au Togo, des nouvelles du rappeur Amron. Selon son avocat, il a été conduit dans un hôpital psychiatrique. Connu pour ses critiques envers le pouvoir, il avait été arrêté le 26 mai dernier. Ce vendredi, il a publié sur TikTok une vidéo dans laquelle il dit avoir eu des troubles psychiatriques. On reparlera aussi des négociations de Doha destinées à mettre un terme au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Après plusieurs semaines d'échanges, pas de résultats tangibles. Le processus semble donc dans l'impasse et suscite de nombreuses questions. Enfin, notre dossier consacré ce soir à l'Aïd, la plus grande fête du calendrier musulman. Événement marqué par le sacrifice du mouton, un moment de partage en famille et avec les voisins. Reportage dans un quartier populaire d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Oui, c'est officiel. Au Mali, le groupe paramilitaire russe Wagner plie bagage avec ses mercenaires après 3 ans de présence sur le territoire. Ils passent le relais à Africa Corps, un autre groupe paramilitaire plus fermement sous la coupe du Kremlin. Les précisions de Serge Daniel.
À Bamako, dans les milieux officiels, aucune des sources contactées par nos soins ne confirme ou n'infirme le départ annoncé des mercenaires russes du groupe Wagner. On le sait, la junte malienne a toujours nié la présence de ces mercenaires sur son territoire, préférant le terme de présence d'instructeurs russes. Côté Wagner, le départ du Mali de ses troupes est annoncé après un peu plus de 3 ans de présence. La relève sera assurée par une autre structure, Africa Corps. C'est une organisation également paramilitaire russe, assurant en Afrique la défense des intérêts extérieurs de la Russie. Composé d'ex-Wagner et surtout de nouvelles recrues, Africa Corps est plutôt étroitement contrôlé par le ministère russe de la Défense. C'est un peu un changement quand on se souvient que Wagner était fermement dirigé par Evgeny Prigojine, certes proche du Kremlin, mais forte tête avant sa mort dans un accident d'avion en décembre 2023. En quittant le Mali, Wagner dresse un bilan très élogieux de sa présence. Autre son de cloche, si la présence de Wagner a permis de reprendre des mains des rebelles à la ville de Kidal, la sécurité n'est pas revenue sur une grande partie du territoire national. En plus, Wagner a été accusé des actions sur les populations civiles par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme.
Serge Daniel, correspondant régional. Et puis on apprend que l'armée malienne s'est retirée ce vendredi dans de ses principaux camps militaires dans le centre du pays après 2 attaques attribuées à des djihadistes, attaques qui ont coûté la vie à des dizaines de soldats en quelques jours dans un contexte de recrudescence des violences au Sahel, selon des sources militaires et des autorités locales. Et puis libération jeudi à Bamako du secrétaire général du parti d'opposition Convergence pour la démocratie. Alassane Abba avait été arrêté le 8 mai dernier à son domicile bamakois par des hommes armés. Plusieurs partis et organisations avaient dénoncé une arrestation extrajudiciaire et demandé sa libération. Alassane Abba était connu pour ses prises de position tranchées contre la junte. Il réclamait notamment un retour à l'ordre constitutionnel. Au Togo, on sait enfin où se trouve le rappeur Amron. Son avocat Célestin Agbogan confirme qu'il a été conduit dans un hôpital psychiatrique. Il avait été arrêté par les gendarmes le 26 mai au soir alors qu'il se trouvait chez lui en famille. Ce vendredi, le rappeur, connu pour ses critiques envers le pouvoir togolais, a publié sur TikTok une vidéo dans laquelle il dit avoir eu des troubles effectivement psychiatriques. Il présente ses excuses au président du conseil, Farnia Singbe, pour, dit-il, ses comportements outrageux. Maître Célestin Agboga, son avocat, estime que la vidéo a été réalisée sous contrainte.
Cette interview, cette vidéo-là, je ne crois pas, moi je doute fort, je n'ai pas les preuves pour le dire, mais à mon analyse personnelle, cette déclaration-là ne sont pas libres, il ne l'a pas fait sans contrainte. C'est ce que nous disons. Parce que là, on dit quelqu'un qui est affecté mentalement, et quelques jours après, cette même personne, comme par miracle, il vient et il parle comme quelqu'un qui n'a jamais été malade, quelqu'un qui est à l'aise et qui parle et qui raisonne. Nous, nous dénonçons quand même la manière dont il a été interpellé et la manière dont il a été traité. Ça ne peut pas se passer comme ça dans un état qui se dit moderne, un état de droit. Non, tel que soit le cas qu'on lui reproche des propos malveillants à l'encontre du chef de l'État, ce n'est pas de cette manière qu'il devait être interpellé. Aucun de ses droits n'a été respecté, on l'a pris comme ça, et puis le procureur n'était pas informé. C'est après qu'on a produit un rapport pour informer le procureur de la République.
Un propos recueilli par Eva Massy. Autour, toujours un important dispositif de sécurité a été déployé ce vendredi à Lomé lors des manifestations contre le pouvoir. Les manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Plusieurs journalistes, dont une consoeur de TV5, ont été brièvement interpellés et contraints d'effacer les images qu'ils avaient tournées. Ces rassemblements rares ces dernières années dénoncent des arrestations ciblées, la hausse du prix du carburant ainsi qu'une récente réforme constitutionnelle renforçant le pouvoir du président Faure Gnassingbé.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Après le retour cette semaine des délégations de Kinshasa et de l'AFCM-23 dans leurs bases respectives en République démocratique du Congo, le processus de Doha marque une pause et suscite surtout beaucoup de questions. Existe-t-il encore un espoir de parvenir à un accord ou en est-on réellement après plusieurs semaines d'échanges? Quel est l'état d'esprit des différentes parties? Élément de réponse avec Passion Ligaudi.
Le Qatar espère toujours un cessez-le-feu et un accord sur une feuille de route entre le gouvernement congolais et l'AFCM-23. Un document de travail a été présenté aux deux camps par la médiation qatarienne il y a près de deux semaines. Selon une source au fait des négociations, ce texte peut être considéré comme une proposition de paix globale. Mais sur le terrain, les propositions restent très éloignées. Une source diplomatique de la région tempère, ce n'est qu'un draft. Côté AFCM-23, on parle plutôt d'un document de base. Le groupe rebelle estime que ce texte ne peut pas encore être qualifié de projet d'accord, notamment à cause des profondes divergences sur la question de retrait de certaines villes. Selon nos informations, l'AFCM-23 pose plusieurs préalables avant d'aller plus loin. La libération de ses cadres détenus, la levée de la résolution du Parlement congolais qui interdit tout dialogue avec eux et la suppression des condamnations à mort prononcées contre certains de leurs membres. Le 31 mai, face au blocage, l'une des deux délégations a officiellement demandé une pause. Les deux camps sont rentrés consulter leurs directions politiques respectives. Objectif, revenir à la table des négociations avec peut-être des marges de manœuvre élargies.
Passion Ligaudi, et c'est dans ce contexte que survient un appel à mettre fin aux souffrances du peuple congolais. Appel signé par 75 prix Nobel. La tribune est parue cette semaine dans le quotidien français Le Monde. Un appel adressé à la communauté internationale et lancé à l'initiative du docteur Denis Mukwege, lui-même prix Nobel de la paix en 2018, pour son action dans l'Est de la RDC auprès des femmes victimes de viol. Florence Maurice.
La liste des signataires est impressionnante. 75 prix Nobel de nationalité et disciplines variées, chimie, littérature, médecine ou paix, de l'auteur nigérian Wole Soyinka à David Macmillan, un chimiste britannique. Ensemble, ils dénoncent le silence mondial persistant, disent-ils, qui entoure les crimes commis dans l'Est congolais. Une tragédie, peut-on lire, qui dure depuis trois décennies de conflits armés, de guerres répétées, de catastrophes humanitaires et de violations systématiques des droits humains et du droit international, et tout cela dans une impunité, je cite, enracinée. Les 75 prix Nobel dénoncent l'absence d'actions significatives pour endiguer ces exactions et appellent à l'organisation d'une conférence internationale sur la paix. S'agissant de la guerre en cours, ils reprochent à la communauté internationale de tolérer, je cite, la présence de l'armée rwandaise dans l'Est congolais, une agression illégale selon leurs termes, qui perdure malgré le vote en février dernier à l'ONU d'une résolution appelant le Rwanda à cesser de soutenir le M23. Les signataires font le parallèle avec la guerre en cours entre l'Ukraine et la Russie et dénoncent un deux poids, deux mesures.
Florence Maurice, en Centrafrique, des inquiétudes pour les élections locales prévues pour le 31 août. La mission d'observation électorale de la société civile constate le non-respect du chronogramme par les autorités et craint un nouveau report de ces scrutins prévus depuis plusieurs années mais jamais organisés. Joseph Bindoumi, le chef de mission du réseau Arc-en-Ciel, redoute également une tentation de coupler ces élections locales avec la présidentielle et les législatives qui doivent impérativement avoir lieu en fin d'année, ce qui risquerait, selon lui, de tourner au fiasco.
Nous ne voulons pas que ce scrutin soit reporté. En février, le gouvernement et l'autorité nationale des élections ont rendu public un chronogramme. Ce chronogramme fixait la publication définitive du fichier électoral au 29 mai. Le 29 mai, rien n'a été fait. Le même chronogramme précisait que à la date du 3 juin, un décret convoquant le corps électoral allait être rendue publique pour que des élections locales se tiennent le 31 août. Nous n'avons pas eu ce décret et nous avons donc des craintes que le 31 août, nous n'ayons pas les élections locales que nous attendons. Or, nous sommes en hors délai. Alors, la crainte, c'est que si les gens prétendent que ces élections-là peuvent être couplées, c'est un exemple que nous n'avons pas essayé depuis 38 ans. Et il y a de fortes chances que nous allions vers des élections qui pourraient être bâclées, sinon non crédibles et non transparentes.
Joseph Bindoumi, le chef de mission du réseau Arc-en-Ciel, propos recueilli par François Mazet.
Abidjan 97.6 FM.
Et place à notre dossier consacré aujourd'hui donc à l'Aïd, la plus grande fête du calendrier musulman, événement marqué par le sacrifice du mouton. En Afrique de l'Ouest, on l'appelle la Tabaski, et au-delà de sa dimension religieuse, c'est aussi un moment de partage en famille et avec les voisins. Illustration en Côte d'Ivoire avec ce reportage de Benoît Almeras dans le quartier populaire de Koumassi-Ramblay, à Abidjan.
La prière de midi s'achève, Abou Koné rejoint sa cabane en face de la mosquée. Tout autour, les carcasses de moutons sont immolées, c'est l'heure du repas de Tabaski.
On est en train de découper les moutons, tout le monde va bien manger, alors il n'y a aucun problème.
C'est important là pour vous d'être en famille, d'être avec les amis du quartier pour cette fête-là?
Oui, c'est important parce que tout le monde vont profiter pour bien manger de la viande, alors on se partage.
Koné est berger, il s'est offert une bête cette année. C'est cher, minimum 100 000 francs CFA. Mais c'est aussi l'occasion d'être généreux. Awa, sa fille, a préparé deux marmites de riz et de pommes de terre.
Depuis hier, à 23h, on est dessus.
Ah ouais? Vous avez préparé pour combien de personnes à peu près?
Non, non, enfin, on est beaucoup. Hein.
Pour le fils Adama, Tabaski, c'est aussi sans jaillir.
Les sœurs sont là, les enfants sont là, tout le monde est content. On va voir des gens, les sœurs, les frères, juste pour saluer, faire la fête le soir, mettre la musique pour s'amuser. Jusqu'au petit matin, on est là.
De quoi rendre heureux les enfants du quartier, tous très bien sapés. Environ 350 000 bêtes vont être sacrifiées en Côte d'Ivoire pour cette Tabaski. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Et on célébrait également l'Aïd au Maroc ce vendredi, célébration dans des conditions particulières. Cependant, le roi Mohamed VI a appelé effectivement ses sujets à ne pas procéder au traditionnel sacrifice du mouton pour épargner un cheptel très affaibli par la sécheresse et éviter que les plus modestes ne dépensent des fortunes pour acheter une bête. Badr Al-Azraq Zahir, professeur et chercheur en droit des affaires et en économie, est à l'invité d'Afrique Midi au micro de Nicolas Sûr. Il rappelle que le Maroc a déjà 3 aïds sans sacrifice depuis son indépendance.
La première, c'était en 1963, tout en prenant les considérations politiques à l'époque, puisque la guerre des sables a imposé aux Marocains de suspendre ce rituel. Aussi, pour des considérations climatiques aux années 80 et aux années 90, la dernière, c'était en 1996. Et aujourd'hui, je pense que les Marocains sont habitués, raison pour laquelle il n'y avait pas des contestations, il n'y avait pas des critiques de cette décision royale. Surtout, il y avait des considérations en relation avec le volume de cheptel qui a régressé de presque entre 50 et 60%. Et ce sont des taux alarmants. Et aussi, je pense même, les ménages marocains ont été un petit peu soulagés parce que vraiment, le prix d'achat des moutons et des têtes de bétail était un peu cher et qui dépasse leur capacité pour financer ce sacrifice de l'aïd.
Quel lien on fait entre la sécheresse et la baisse du nombre de moutons? C'est parce qu'il n'y a plus de pâturage au Maroc?
Il n'y a plus de pâturage et en plus, il y avait une forte demande sur le cheptel national. Donc, chaque aïd, les Marocains consomment plus de entre 5 et 6 millions de têtes. Et suite qu'il n'y avait pas un effort de reconstitution du cheptel national, vu qu'il y avait 7 ans, 6 ans de sécheresse consécutive, donc le volume général de cheptel national a perdu plus de tiers de sa capacité. Raison pour laquelle cette décision était inévitable, surtout une décision articulée sur les statistiques.
Donc l'objectif principal, il est de permettre au cheptel marocain de se reconstituer. Et aussi de soulager les bourses des ménages les plus modestes. Je crois que certains éleveurs disent que si le sacrifice avait eu lieu cette année, le prix du mouton aurait atteint les 600 ou 700 euros, deux fois le salaire minimum.
Et le SMIC, deux fois le SMIC, et surtout il y a des pratiques de spéculation. Parfois, ils même dépassent les 10 000 dirhams, c'est-à-dire les 1 000 euros, et c'est vraiment hors la portée des ménages marocains, et qu'il y a des retombées surtout sur les couches et les sphères les plus pauvres.
En dehors de cet appel à ne pas pratiquer le sacrifice, y a-t-il des mesures concrètes de soutien à la filière ovine qui sont prises par les autorités au Maroc?
Bien sûr, il y a des subventions directes pour les éleveurs, pour leur donner du temps pour reconstituer le cheptel. En plus, il y a des mesures qui ont été prises au niveau de l'importation des têtes ovins et bovins pour alimenter le cheptel national. Et l'année prochaine, certainement, il y aura l'occasion pour le peuple marocain pour fêter l'Eid comme les autres peuples arabo-musulmans.
Le chercheur Badr Al-Azraq Zaher répondait aux questions de Nicolas Sûr.
Afrique Soir sur RFI.
Un rapport des Nations Unies publié il y a quelques jours met en garde les autorités marocaines contre les violations des droits humains du peuple sahraoui, notamment après une vaste opération de destruction et de déplacement forcé. Il s'agit, selon le rapport, des zones situées le long de la côte atlantique du Sahara occidental. Le Maroc rejette toutes ces accusations qui émanent, selon Rabat, de ceux qui politisent les mesures de l'ONU. Mais Ouda Ibrahim, de plus en plus de multinationales et autres sociétés spécialisées dans l'énergie verte s'installent dans ces zones vidées de leurs habitants.
Les rapporteurs de l'ONU reprochent au royaume chérifien de forcer les détenteurs de biens sur la côte atlantique du Sahara occidental, une zone concernée par le référendum sur l'autodétermination, à se déplacer. Selon le rapport, des centaines de maisons ont ainsi été détruites ou incendiées en bord de mer entre 2022 et 2024. Les terrains des propriétés privées ont été confisqués, des projets touristiques et dans le domaine de l'énergie verte sont en cours de réalisation dans cette zone, indique le rapport de l'ONU. Les rapporteurs notent également une dégradation nette des droits humains avec la multiplication des intimidations et d'oppressions sur les habitants. Dans une lettre adressée au Palais Royal marocain, l'ONU demande des explications sur ces agissements, appelant le Maroc à respecter ses engagements au niveau des droits humains et du droit international. Les rapporteurs demandent aussi au Maroc de garantir au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination. Face à ces exactions, les défenseurs des droits de l'homme au Sahara occidental accusent Rabat de vouloir y changer les données démographiques en encourageant les Marocains à s'y installer.
Ouda Ibrahim. Et puis en sport, la Basketball Africa League a pris ses quartiers en Afrique du Sud pour la dernière étape de cette cinquième saison. Après Rabat, Dakar et Kigali, les 8 meilleures équipes du tournoi se retrouvent depuis ce vendredi donc à Pretoria pour déterminer le grand vainqueur. Le Rwanda accueillait ses phases finales depuis la création de la balle en 2021. Mais pour la première fois, Claire Bargelès, c'est donc la nation arc-en-ciel qui a été choisie.
Même si Rwandair et Visit Rwanda restent parmi les sponsors et diffusent des clips vidéo lors des mi-temps, c'est bien à l'Arena de Pretoria qu'ont lieu ces phases finales. Ce choix fait sens étant donné la présence historique de la NBA sur place, selon le président de la compétition, Amadou Galofal.
Nous avons passé beaucoup de temps dans ce pays depuis 2003 quand on a organisé le premier camp en Afrique, ça s'est fait ici. Nous avions organisé notre conférence Kalahari ici l'année dernière et vraiment le succès était retentissant. Nous sommes confiants que le public va venir et que surtout nous avons les 8 meilleures équipes de notre saison qui vont se disputer ce trophée farouchement.
Après les démêlés financiers des Cape Town Tigers et la défaite en phase qualificative des Made by Ball de Johannesburg, l'Afrique du Sud n'est pas représentée sur le terrain. Hannibal Manav, le président de la branche Afrique de la FIBA, la fédération de basket, espère que l'événement saura stimuler les équipes du pays.
Nous sommes convaincus que le fait d'accueillir les finales servira de catalyseur pour le développement du basket en Afrique du Sud et contribuera à ce que les équipes sud-africaines retrouvent le plus haut niveau de la compétition continentale. C'est leur place.
Les responsables du basket africain sont aussi revenus sur l'absence d'une ligue similaire pour les femmes, affirmant travailler sur la question. Claire Bargelès, Pretoria, RFI.
Et puis sachez aussi qu'en match d'ouverture, les Capverdiens de Creole Star ont dominé le Fat Union Sport de Rabat 91-88. Enfin, en football, les sélections africaines disputent cette semaine des matchs amicaux. Le Sénégal est allé chercher un match nul en Irlande, score final 1-0. Match spectaculaire entre le Niger et le Gabon. Le MENA national s'est imposé 4-3 face aux Panthers. Ça se passait au Maroc. Enfin, le Cameroun s'est baladé face à l'Ouganda, 3-0. C'est un projet musical et cinématographique d'environ 11 minutes, mis en ligne jeudi sur YouTube par DJ Snake, l'un des musiciens électroniques français les plus écoutés au monde. Il est intitulé Sabali, un mot qui en bambara signifie patience mais également immortel. Le film raconte l'odyssée clandestine d'un jeune Sénégalais qui rêve de rejoindre l'Europe. Produit entre la France, le Sénégal et l'Algérie, il a été réalisé par le jeune cinéaste français Valentin Guiode. Sujet signé Edmond Sadaka.
Patience, c'est une rencontre entre ces deux univers que sont l'image et la musique. DJ Snake d'abord, il a ressenti le besoin de raconter les drames de l'immigration dont on parle trop peu, selon lui. Il a dit à nos confrères de Combini.
On montre pas assez toute la misère qu'ils sont en train de se taper. Et souvent, c'est les pays de l'Occident qui créent ces guerres-là et après se plaignent que ces gens-là fuient.
Sur le remix de la chanson Sabali d'Amadou et Mariam, le film raconte l'exode de Moudou, interprété par le jeune Alassane Diong, et avec dans le rôle du père Omar Sy. 11 minutes sans dialogue, filmé avec beaucoup de poésie par la caméra de Valentin Guillot.
DJ Snake m'a vraiment donné la possibilité d'étendre sa musique pour l'image. Donc on a fait un vrai travail de composition à l'image, et pour faire en sorte que finalement, ils se répondent tous les deux d'une manière symbiotique.
Ce film, dédié à l'association SOS Méditerranée qui vient en aide aux migrants naufragés, a nécessité 3 ans de travail, dont 3 semaines de tournage au Sénégal.
Un sujet signé Edmond Sadaka. Il est 00:52 à Paris. Et à Libreville au Gabon, où dans la perspective du sommet sur les forêts tropicales qui se tiendra en France l'année prochaine, des chercheurs sillonnent les forêts du bassin du Congo pour collecter les espèces encore mal connues ou non encore étudiées. Ces espèces sont photographiées, nommées et stockées dans une application. Il y a quelques jours, une 20aine d'étudiants gabonais a bénéficié d'une formation théorique suivie d'une exposition et d'une expédition dans la forêt. Yves-Laurent Goma, notre correspondant à Libreville, était à leur côté en reportage.
Arboretum de Sibong, une forêt située dans le nord de Libreville. Le botaniste Daniel Barthélémy et ses étudiants sont lancés à la recherche des espèces à documenter après des cours théoriques dans une salle climatisée. Brusquement, le chercheur français basé à Montpellier s'arrête devant une plante.
Alors là, c'est intéressant parce que c'est une forbiacée qu'on a vue ce matin avec tous les gens de la formation. On ne sait pas exactement quelle espèce c'est, mais on a une idée du genre parce qu'on a fini par trouver les fleurs, on a trouvé les fruits. Donc ça nous indique déjà quel genre peut appartenir cette espèce.
Daniel Barthélémy parcourt les forêts du bassin du Congo depuis 2023 après sa participation à Libreville au One Forest Summit, un sommet sur les forêts tropicales dont les très nombreuses espèces sont encore très mal connues par rapport aux forêts européennes.
Il y a beaucoup, beaucoup d'espèces et finalement peu de monde en comparaison qui les étudie. Et donc, on connaît les espèces, bien sûr, mais la quantité d'espèces qui doit être documentée, prise en photo, etc., est considérable.
À chaque étape, les chercheurs prennent des photos qui vont enrichir l'application PlanteNet créée pour documenter les espèces végétales des forêts tropicales. Dadingema Ikapi, doctorant à l'Université de Sciences et Techniques de Masuku, fait partie de l'expédition.
On est en train d'enrichir la base de données pour nous permettre de collecter plus d'images et pour pouvoir actualiser au fur et à mesure dans le temps. Lorsque la plante elle est bien filmée sur le terrain, elle nous permet tout de suite de pouvoir l'identifier à partir de l'application PlanteNet.
PlanteNet rêve de devenir l'encyclopédie des plantes des forêts tropicales. Il est fondé sur le principe de partage et de gratuité, explique le docteur Myriel Simino-Droissard de l'IRD Montpellier.
La licence de partage des photos dans PlanteNet, c'est une licence libre. Ça veut dire que toutes les photos que vous les partagez librement. Mais chaque fois que les gens utiliseront les photos que vous avez faites, on saura qu'elles sont de vous parce qu'il y aura toujours votre nom en dessous des photos.
Loin d'un simple stockage, les photos fournies par les chercheurs doivent participer grâce grâce à l'intelligence artificielle, à mieux protéger les forêts, étudier leur capacité de stockage du carbone, mais aussi à quantifier les crédits carbone. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
RFI à Libreville, où il est actuellement 23h55. Dernière étape de notre tour de l'actualité africaine, le Sénégal, pour écouter la bande-son de la Tabaski. Ces dernières années, le Tabaski Challenge a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Danser et se filmer en étant accompagné de chansons publiées à l'occasion de la fête religieuse. Les labels et les artistes ont bien conscience de cet engouement. Le reste, c'est Gwendal Lavina qui raconte.
C'est un moment très attendu chaque année par les utilisateurs assidus des réseaux sociaux, la sortie des morceaux de musique pensés pour être la bande-son de la Tabaski, avec un impératif, donner envie de danser lors des fêtes organisées à l'aide de paroles et d'une musique entraînante. Mercredi, le label Zibesque a été parmi les premiers à sortir Rumbar, l'ambiance en Wolof. Awatia, c'est la chanteuse de Rumbar qui, selon elle, parle à tout le monde, particulièrement pour la Tabaski, où chacun se met sur son 31.
Si on dit Rumbar Challenge, on parle d'animation, on parle de mode, on parle de beauté, on parle d'ambiance, on parle de nos tenues. Du coup, les Sénégalais vont vraiment adorer ça.
Pape Bilal co-interprète la chanson et il sait qu'elle était très attendue.
Ici au Sénégal, ça représente beaucoup de choses. Parce que nous sommes des artistes connus par les Sénégalais et la sous-région aussi. Il nous attend à chaque fois au moment de la Tabaxi, de la Corité, sur les festivités, pour qu'on sorte un single, juste pour créer de l'ambiance à travers les fêtes, quoi.
Un duo de stars pour chanter, une musique bien rythmée, dernier ingrédient, les paroles. Elles mettent en valeur les tenues, les accessoires, mais aussi l'ambiance et le sentiment de partage qui accompagne la fête de la Tabaski. Zibest a composé Rumbar. Il a bien conscience que sa cible reste les jeunes et a pensé la chanson pour eux.
Ils veulent faire des challenges sur leur TikTok ou bien faire des snaps pour montrer aux autres qu'aujourd'hui pour la fête, je me suis habillé comme ça. Ainsi, tu as besoin de la musique pour snapper, tu as besoin de la musique pour faire l'ambiance. Raison pour laquelle la musique s'accole. Avec la fête de la Tabaski. Donc on est obligé même de faire des morceaux spécialisés pour la fête.
Cela fait près de 5 ans que son label sort une chanson pour la Tabaski, avec l'ambition qu'elle accompagne ensuite les Sénégalais dans les prochains mois pour aussi devenir un tube de l'été. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Eh bien, c'est sur cette bande-son de la Tabaski au Sénégal que s'achève cette édition africaine réalisée par David Brockway, rédactrice en chef Sabine Mélé, assistée de Yasmine Boulan. Merci à tous les trois et merci à vous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute dans environ 2 minutes maintenant, un nouveau journal sur la Radio Mondiale.
L'atelier politique, Frédéric Rivière.
Bonjour, je vous donne rendez-vous tous les samedis pour un entretien avec une personnalité politique, philosophe ou encore sociologue, avec l'ambition de ne pas s'arrêter à l'actualité immédiate, mais de prendre le temps de réfléchir aux grands sujets qui traversent et traverseront la France et le monde aujourd'hui et dans les prochaines années.
L'atelier politique avec Frédéric Rivière, tous les samedis à 19h10 TU sur RFI.
BPM. Bonne pulsation du monde avec Hortense Wolf.
Nourrie de chants polyphoniques, sa musique brille par son épure. Elle parle avec une honnêteté sans fioriture. L'artiste franco-camerounaise Cindy Poche est dans BPM La Rencontre.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Wolf.
tous les dimanches à 14h10 TU sur RFI.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.